l'association des Amis du Théâtre de la Liberté de Jenin tiendra un stand de documents, livres et produits artisanaux palestiniens. Le festival, donc demain, dimanche 19, donc 19 novembre, c'est de 14h à 19h, c'est au CICP, 21 Terre rue Voltaire dans le 11e arrondissement. Et c'est, il faut le dire, il y a évidemment le Théâtre de la Liberté, c'est-à-dire le Freedom Theater de Jenin, mais il y a aussi d'autres, absolument d'autres associations, puisque c'est le Festival des Solidarités. Donc au CICP, demain, à partir toute l'après-midi jusqu'à 19h, si je comprends bien. Voilà, c'est ça, 14 à 19h. Mercredi prochain, c'est le 22 novembre, c'est à 20h, le ciné de la commune présente donc une coopérative populaire de Renan Kerner et David Ferret. En 1967, quelques habitants de la ville de Barquisimeto, au Venezuela, s'associent pour enterrer dignement leurs morts. Malgré les pressions politiques, leur modèle autogestionnaire progresse et se diversifie. 50 ans plus tard, ce sont plus de 1200 travailleurs et travailleuses associés qui gèrent des supermarchés populaires et les ferias. Égalité des revenus, rotation des postes et absence de hiérarchie sont les piliers de l'organisation. La projection du film se passe donc le mercredi 22 novembre, c'est-à-dire mercredi prochain, à 20h à Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. Le téléphone de la librairie, on vous le dit si souvent, c'est 01 48 05 34 08 et l'entrée est libre mercredi prochain à 20h à Publico. CQFD, ben, j'aurais pas grand chose, bon, j'ai pas beaucoup de temps pour vous en parler, mais c'est pourtant un numéro qui est très intéressant. C'est le numéro 224 de donc novembre 2023. Et vous m'entendez tourner un peu les feuilles de papier, mais c'est la vérité. Et donc, il y a énormément de choses à l'intérieur. J'aurais pas le temps de tout vous citer. Ce serait un peu dommage, mais c'est important de lire ce journal. C'est un mensuel. Et par exemple, ça parle en page 4, colonisation, violence et contre-violence. Je vous donne juste le chapeau. L'attaque des factions palestiniennes n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Sidéré, voilà où nous en sommes, comme beaucoup devant l'horreur et l'ampleur des massacres. 3 semaines et des milliers de morts après le début de la guerre. On situe souvent le 7 octobre, mais malheureusement, ça existait bien avant, parce qu'on oublie les gosses qui ont été brûlés par des colons en Cisjordanie. Et on oublie aussi les soldats de la Haganah qui s'amusaient à tirer sur les jeunes qui faisaient, vous savez, cette marche pacifique autour du mur à Gaza, et qui visaient les genoux. Parce que les genoux, après, ça les laisse, on est obligé d'amputer, ou ça les laisse complètement handicapés à vie. N'importe comment, on reviendra certainement là-dessus, puisque je pense que plusieurs émissions de Radio Libertaire parlent justement de ce qui se passe. Et c'est important de donner une autre information. Donc, CQFD, c'est le numéro de novembre et c'est le numéro donc 224. Ensuite, la semaine prochaine, le samedi 25 novembre, on aura deux grands entretiens, puisqu'il y a l'entretien avec Bertrand Mandicourt, réalisateur de Conan la Barbare, que c'est un film absolument magnifique, et un autre film qui est un film de Anna Sofia Fonseca et qui est sur Cesaria Evora, la diva au pied nu, c'est donc le titre. Donc ce sera ces deux, j'espère qu'on pourra passer les deux entretiens, parce qu'ils sont assez longs tous les deux. Et puis donc, on parlera aussi d'un film, dans la mouvance des films Trues et Bas. C'est un film de Itsaso Arana. Et ça a pour titre, il sort donc le 29, les filles vont bien. Et c'est un film qui en fait est un film qui se construit. en train de se tourner et qui se construit en même temps, en process, comme on dit. Voilà, donc très très bonne semaine, et bien sûr, à la semaine prochaine, et comme d'habitude, eh bien, tenez bon.
Radio Libertaire 89,4 MHz, j'ai oublié le palindrome d'ouverture de Gérard Durand. Qu'il me soit permis de prendre ici la parole au nom de ceux qui ne l'ont pas. En fait, c'est pas vrai, ça va pas être du tout le cas, mais j'ai constaté que depuis un certain temps, tout le monde prenait la parole au nom des autres sans forcément représenter les autres. Ben, c'est-à-dire que la semaine dernière, on a quand même vu Marine Le Pen prendre la parole au nom des antiracistes. On voit aussi le Hamas parler au nom des Palestiniens, je réévoquerai ça dans un instant. On voit aussi Benjamin Netanyahou parler au nom des gens d'Israël, alors qu'en fait il parle au nom de ses généraux. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans l'hôpital, à part les ferments d'une prochaine nouvelle intifada? Et puis il y a ceux aussi qui croient que Netanyahou parle au nom de mes voisins Noam et Shoshana. Et puis il y a Jean-Luc Mélenchon qui pense parler au nom de la gauche. Et puis il y a Macron qui pense parler au nom de la finance. Non, quand je vous disais que le Hamas prétendait parler au nom des Palestiniens, j'ai un extrait d'un petit texte de David Shemla, de La Paix Maintenant. La Paix Maintenant, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ceux qui, en Israël, sont franchement anti-Netanyahou et veulent la cohabitation. Et puis, ce texte de David Shemla, voilà un extrait. Et voilà que les assassins du Hamas ont réuni deux mots, pogrom et kibbutz, un samedi noir au nom d'une cause palestinienne qu'ils ont dévoyée et salie. Savent-ils seulement, en tuant leurs victimes d'une façon aussi barbare, brûlant ce qu'il restait de leur pauvre corps après les avoir violés, décapités, démembrés, à tel point que toutes n'ont pas été identifiées, qu'ils tuaient même ceux qui se battent contre l'occupation et pour qu'il y ait un État? Comme Carmela, membre de La Paix Maintenant qu'ils ont brûlé, avec Noya, sa fille, autiste. Ont-ils reconnu Viviane, qui accompagne les enfants à Gaza, dans les hôpitaux israéliens? L'ont-ils reconnu avant de la prendre en otage? Je pourrais allonger cette liste, rajouter les noms des 250 jeunes assassinés alors qu'ils participaient à un festival de danse pour la paix. Mais pour ces assassins, peu importe les opinions de leurs victimes, vieux ou jeunes, enfants ou bébés, ils sont tous l'objet de leur haine, inculquée depuis l'enfance. D'ailleurs, les dirigeants du Hamas se soucient-ils du bien de l'être de la population palestinienne? Ils le pouvaient, malgré la politique imbécile des Israéliens, en utilisant pour elle les dollars du Qatar plutôt que pour s'armer. Ils ont même récupéré les canalisations installées par les communautés internationales pour assainir les réseaux des eaux, pour en faire des roquettes. Connaissant la réaction israélienne, pourquoi n'ont-ils pas construit des abris pour les civils? Non, non. ce n'est pas la cause israélienne, ni sa population, la cause palestinienne, ni sa population qu'ils défendent. Parce qu'en ce cas, ils n'auraient pas choisi de sacrifier dans leur folie meurtrière. Il faut le dire haut et fort aux manifestants pro-palestiniens, le Hamas est l'ennemi de la cause palestinienne. Et puis, finalement, je voudrais parler au nom de ceux, je voudrais parler au nom des vivants, parce que, c'était le dernier mot que je voyais dans cet article de David Shemla. En gros, quoi, malgré tout, la vie, si nous devrions renoncer à l'espoir, alors ce serait la victoire de tous les terrorismes.
Poi, 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 on part à Gaza, bombarder les terroristes, les femmes, les enfants, les chiens, les chats. Poi, 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 le Hamas, c'est des barbares. Nous, on tue avec des bombes, pas des roquettes, ça a rien à voir. Poi, 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 on a visé l'hôpital. C'est par humanisme, pour que les blessés, plus jamais mal. Poi, 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 j'ai entendu du bruit. Désolé si j'ai tiré, j'ai cru que c'était une rêve partie. Poi, 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 on a coupé l'eau courante. On va vous doucher, on n'a pas le mot phosphore à l'essence. Poi, 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 vous êtes dans des tunnels. On va les gazer et sceller les portes à la truie. Poi, 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 nous on fait pas d'otages. À part 2 millions à ciel ouvert derrière du haut voltage. Poi, 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 mais vous pouvez prendre la fuite. Promis, vous reviendrez en même temps que les réfugiés de 48. Poi, 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 on a détruit vos maisons. On en reconstruira des mieux quand s'y installeront nos colons. Poi, 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 on était là il y a 2000 ans. T'as qu'à retourner en Espagne où vous étiez il y a 1000 ans. Poi, 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 Dieu est dans notre camp. La preuve, j'ai jamais vu un rabbin qui était musulman. Poi, 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 nous c'est pas pareil. On était terroristes, mais contre les Anglais. Pas Israël, poi poi poi, eux c'était des colons, ça n'a rien à voir, nous on est chez nous, on a raison, poi poi poi, le Hamas est fini, jusqu'à ce que leurs enfants soient grands et de haine remplis, poi poi poi, critiquer Netanyahou, c'est antisémite, c'est anti-France, c'est pas bien du tout, poi poi poi, la paix maintenant, et Free Palestine, c'est antisémite, djihadiste et islamo-fasciste, poi poi poi, votez LFI, c'est antisémite, pas une opinion mais un délit, poi poi poi, le ballon d'or à Benzema, c'est antisémite, faut le donner à Dolev Aziza, poi poi poi, les chansons de Vaquette, c'est antisémite, hein. Poi poi poi, avoir été contre l'apartheid, c'est du racisme anti-blanc. Ah non, merde, non, là c'est pas pareil. Poi poi poi, on part à Gaza, bombarder les terroristes, les femmes, les enfants, les chiens, les chats. Poi poi poi, le Hamas c'est des barbares, nous on tue avec des bombes, pas des roquettes, ça a rien à voir.
Radio Libertaire, non seulement en début d'émission, il n'y a pas eu de palindrome de Gérard Durand, il n'y a pas eu de « je me souviens » parce que j'ai prévenu le reste de l'équipe que j'allais être atteint d'un peu d'Alzheimer aujourd'hui, dans la mesure où on a un sommaire très fourni avec des surprises de dernière minute. Eh bien, dans le cadre du sommaire, je sais qu'on aura Sophie en fin d'émission pour une sélection de textes. On a Michel, on a Moa avec un invité théâtre et tout de suite... On aura aussi les petits cadeaux d'Evelyne et Jean-Marie. Et tout de suite, eh bien, on commence avec Laurent, qui a... Mais Laurent a même double dose d'invités aujourd'hui. Alors Laurent, je te passe tout de suite la parole et les micros qui vont avec.
Eh bien, merci Nicolas. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et puis, oui, effectivement, beaucoup d'imprévus. Alors, ce que nous avons pendant la première partie de cette émission... C'est un sujet autour de la poésie et de la chanson qui nous viennent d'une île très lointaine, hein, une île continent, c'est Madagascar. Et donc, deux invités pour cette séquence. Et puis, nous aurons une séquence d'une petite dizaine ou quinzaine de minutes avec Christina Rosmini, qui vient présenter son album et son spectacle. Et puis, ensuite, nous aurons bien sûr Moa et son invité. Et puis, voilà. Et puis ensuite, Sophie, pour les quelques textes de fin d'émission. Alors, la poésie malgache, la chanson, nous avons... Bonjour Anchoun, bonjour à toi.
Bonjour Laurent, bonjour à tous les auditeurs.
Et Patricia qui vient aussi d'entrer dans le studio. C'est une famille en fait. Hein.
Bonjour.
C'est une famille. Bonjour Patricia, c'est une famille. C'est le groupe Sora Javona que j'ai eu le bonheur de programmer à Publico, donc certains des auditeurs vont reconnaître des sonorités, des musiques et la musicalité de cette langue malgache. Et nous parlerons ensuite de Christina, qui va pouvoir rester toute l'émission, puisque nous avons prévu une séquence courte, mais nous l'espérons efficace. Alors, dans ce groupe, Sora Javona, nous avons 50% des effectifs. Hein, aujourd'hui, nous avons la moitié du groupe, puisqu'il y a Andri, et puis bien sûr notre magnifique guitariste, chanteur et traducteur de Brassens, Dédé, qui nous écoute. Voilà, je pense qu'il nous écoute tous les deux. Alors, c'est un groupe qui a été créé en 1974, et donc dans ce groupe, j'ai voulu faire un coup de projecteur aujourd'hui sur Anchun, qui est poétesse et dont j'ai souhaité éclairer un peu plus le travail, un travail très discret, un travail assez imposant, assez conséquent, avec plusieurs recueils de poèmes. Et puis, normalement, il devait y avoir un direct avec Patricia, qui chante, qui compose également, mais nous allons entendre certains éléments qui sont enregistrés. Patricia a vu avec Nicolas tout ce qui allait se faire. Voilà, donc nous avons prévu un programme, mais bon, pour l'instant, nous avons prévu en direct des poèmes qui seront dits en direct, et puis deux poèmes qui sont enregistrés. Alors, ce travail d'écriture, tu me l'as dit depuis plusieurs mois, Anchun, c'est un travail qui est depuis ton adolescence.
Oui, depuis mon enfance. Ça fait 35 ans que j'écris. Et c'est vrai que c'est assez tôt que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vivre sans écrire. Ne pas écrire me rend malade et voilà, c'est quelque chose d'assez vital. Donc c'est pour ça que ça a accompagné toute ma vie.
Tu m'as dit au téléphone, j'écris tous les jours.
Tous les jours j'écris, tous les jours sans, enfin je me force pas, hein, ça vient comme ça, parce que si j'écris pas, je me sens pas bien. Donc ça peut être des textes de poésie, ça peut être aussi des nouvelles, une suite de romans que je prépare, donc... Il y a toujours matière à écrire. Parfois aussi, c'est des traductions que des gens commandent, ou bien que moi-même fais, des traductions d'œuvres de poètes malgaches ou de poètes non malgaches que je traduis en malgache.
D'ailleurs, on t'a demandé ton concours sur une grande radio internationale, RFI, je crois. On t'avait demandé une collaboration.
Ah, oui.
Ouais, je me souviens. J'ai quelques notes. Tu peux en parler aussi, parce que c'était un épisode assez... c'était assez conséquent. On a demandé tes services comme traductrice-interprète.
Oui, en fait, il y avait un lauréat d'un concours dans le cadre de la francophonie en collaboration avec un organisme de recherche. Et le lauréat était un malgache. Enfin, il a demandé qu'il s'exprime en malgache et ils ont cherché un interprète. Et c'était pour ça que j'étais venue pour traduire et interpréter les propos de ce lauréat, heureux lauréat.
Donc tu traduis du malgache vers le français,
oui,
et du français vers le malgache.
Oui, de l'anglais aussi vers le malgache et du malgache vers l'anglais.
Donc c'est un travail qui semble te passionner, parce que c'est toujours cette passerelle entre deux cultures. Tu es né.
Je suis né à Madagascar.
À Madagascar.
Tananarive.
Et donc, tu fais partie aussi donc, de ce groupe, Sora Javona, dont Patricia représente avec beaucoup d'enthousiasme. Hein. On a vu sur la scène de Publico il y a à peu près un petit peu plus d'un an maintenant. On a vu ce groupe et il y a eu des très belles réactions, très belles salles et surtout l'appétit pour un public de découvrir une culture, mais comme on dit, sur scène, en live. Alors Patricia, tu écris aussi des textes ?
Oui, j'écris, je compose, j'arrange, je mets en scène, je fais un peu tout. On va dire ça comme ça. Je manage en même temps le groupe et puis bon, on n'aura pas le temps si on veut parler de tout ça sur moi.
Merci de me le rappeler. Mais bon.
Oui, mais donc voilà, j'écris, je compose aussi. Par exemple, j'ai mis en musique deux poèmes de Antoun. Et le plus, je peux raconter ?
Ah oui.
Une petite anecdote quand même. J'ai composé le morceau. Donc, j'ai fait une surprise de lui chanter. Et quand j'ai fini de chanter, elle me dit « Waouh, qu'est-ce que tu écris bien, maman ?» Puis j'ai dit « Ah oui, j'écris bien. » Et puis elle fait. Donc, elle me dit « Tu veux que je recommence ?» J'ai recommencé. Puis elle me dit « Non, je n'ai plus rien à dire. La musique est bonne, les paroles sont bonnes. » Puis j'ai dit « Mais les paroles ne sont pas les miennes. C'est les tiennes. » Là, elle a ouvert grand les yeux. Je lui ai montré la date, parce qu'elle était toute jeune quand elle avait composé. Et là, elle me dit « Oui, je me souviens. » C'était un poème qui a été commandé par un de ses amis.
Oui.
Hein, raconte un peu, pour transmettre.
Oui, c'est un poème qui a été écrit en 1995. Donc, c'est pour ça que je ne m'en souvenais plus. Elle l'a sorti comme ça et j'ai trouvé ça très beau. Oui, c'est vrai, c'était une belle surprise.
C'était une commande, donc, qu'un de ses amis a fait pour... Elle lui demande
une déclaration d'amour
pour une amie de son amie.
Oui, je me souviens maintenant de cette anecdote et je crois que je t'avais répondu que c'était un peu comme Clément Marot qui faisait poète de cour et qui allait écrire les poèmes pour les grands de la cour royale. Et les grands allaient justement transmettre des poèmes pour séduire une belle. Voilà, c'était un peu ce qu'on s'était dit au téléphone, je me souviens. Alors on va écouter Antoun maintenant, on va l'écouter, c'est le premier disque, hein, il y a deux poèmes. Et celui qu'a choisi Antoun, c'est extrait d'un recueil qui s'appelle « Deux fois une » aux éditions Sepia. Alors, le poème, voudrais-tu nous dire le titre qu'on va diffuser ?
Ou alors c'est un titre en direct.
Ah, tu vas le faire en direct. Mmh. C'est celui-là qui est en direct. Alors, on va écouter en direct, c'est en direct, Antoun qui nous dit le poème de son choix.
Alors, c'est une composition que j'ai faite. Une amie, une sœur. Une amie, une sœur, petite fille, belle sœur. Une fille, une nièce, une amante, maîtresse, cousine, grand-mère, compagne, partenaire, bru, mère, belle-mère, une copine, une voisine, une collègue, une frangine, une tante, une marraine, une filleule, une reine. Aussi, sur le pavé de l'allée de ton nom, j'ai trouvé, ainsi dit et gravé cet instant, où, sans vraiment l'espoir de grands engouements, les idées sur la route enclenchent le mouvement. Dans les rizières vertes, l'on repique le riz, dans ces forêts, les bois, dans ces champs, les épis, sous ce toit blond de chaume, l'on tresse la vannerie, dans ces usines atones, l'on assemble les plis. Sur ces marchés, les rires marchandent les aigris. Sous ces toits, les écarts bafouent les écrits. Sur ces corps, quelquefois, s'abat sans accalmie la rafale des coups, non nommés, des délits. Dans ces écoles, peu ou trop peu sont des filles, trop jeunes, délivrées, vendues à un mari. Contre le dévouement emmené de sa pièce, on flagelle ses rêves et que ses plaintes cessent. Et quand bien même, libre de courir les vents, elle s'amarre à un port dénudé pour l'amant, prise au piège du corps, nature généreuse, bradée chair mais heureuse, belle et plantureuse. Que ce chemin est long, mais n'est-il pas juste le sien qui est le bon ? Lisse soit-il ou fruste ? Celui qu'elle a choisi, ayant eu l'arme en main pour ériger elle-même la voie de son destin. Au bout de cette allée, non pas un précipice, mais une plage immense dont la mer est l'indice. Elle appelle à courir, cheveux et bras au vent, libre d'aller, venir, comme les lames en mouvement. Libre de ne pas être ce que l'on veut qu'on soit. Libre d'agir en maître et d'assumer son choix. Libre d'avoir sans être un objet, un appât. Libre enfin, ne plus être l'autre. L'autre, isolé là-bas.
Tiki lava anizaza mira mira na timba tesi cha tiku tuniluaranu vadi simanganu anu itagua
certaine antenne, me dit Nicolas, notre grand timonier du samedi. Alors aujourd'hui, dessous de scène avec Laurent, et puis tout à l'heure Moa et son invité, plus une autre invitée qui est Christina Rosmini, qu'on écoutera tout à l'heure. Pour l'instant, nous sommes dans la culture, la langue, la musique qui nous vient de Madagascar. Et là, on vient d'écouter voilà, une chanson que j'aime beaucoup. De toute façon, c'est un deux titres et tout est magnifique. Là, on vient d'écouter Tiako. C'est bien comme cela, Tiako, comme cela.
Oui. Tiako.
Ah, alors, qui veut dire ?
J'aime.
Bah, hein, voilà, ça fait rire Moa, donc c'est un très bon signe. Et donc,
tellement court et simple.
Voilà.
C'est la base de la vie. Hein.
Voilà. Alors, ça, c'est donc une composition. Paroles et musique, Han Chun. Alors, c'est arrangement Dédé et Patricia.
Hein. Oui.
Donc, c'est les parents d'Han Chun qui sont, bien sûr, sur tous les fronts pour faire vivre ce patrimoine. Puisque vous vous attachez, dans cette langue malgache, à écrire, à composer, à chanter sur scène, à faire autant que possible quelques disques, c'est important que ça puisse circuler, et vous avez un parcours très 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 ancien. Alors pour Han Chun, qui écrit donc depuis ses tendres années, là je vois que tu as dans la main un très beau, c'est une revue.
Oui, c'est une revue, les lettres de Lemurie.
Ah oui, c'est magnifique. Oui, déjà, l'objet que je tiens dans la main est absolument...
C'est un livre bijou.
Ananda Devi, Han Chun, Monique Morabet, Mahamoud Msadi, Warda et Nataela Rafera. Oh, mais il y a même beaucoup plus que ça, il y a même beaucoup de noms. C'est une revue.
Oui, c'est une revue d'écrivains de l'océan Indien.
Mm.
Et c'est pour ça qu'il fait allusion à... L'éditeur fait allusion à Lemurie pour rappeler en fait cet ancien continent imaginaire ou réel qui a uni toutes les îles de l'océan Indien. Alors, il y a donc beaucoup d'auteurs qui sont édités dans cette revue qui sort tous les ans.
Très bel objet, vraiment très bel
magnifique.
Objet que je te restitue parce que tu l'avais
Merci.
Ouvert à une page et tu souhaitais nous lire
j'ai souhaité
poème.
Lire un extrait de nouvelle.
Oui.
Qui est dans ce...
La bouche de Nino, c'est
la
bien ça
La bouche de Nino.
De Nine. Ah oui, avec la prononciation. Hein.
Oui.
On va prendre des cours en direct aujourd'hui sur Radio Libertaire, c'est très très instructif. Han Chun, nous oui. t'écoutons.
Une femme aguicheuse allait et venait sur le trottoir, sous la lumière du réverbère, comme si elle attendait quelqu'un. Provocante, elle portait un haut rouge moulant au large décolleté, laissant entrevoir une lingerie en filet. Une micro-jupe en cuir, noire, avec deux petites poches à l'arrière, sur de hauts talons aiguilles. Un petit sac à main accroché à son épaule gauche, avec une fine chaîne dorée. Les passants la sifflaient. Des hommes, évidemment. Tandis que les femmes faisaient la moue, les yeux écarquillés, hochant la tête de désespoir quand elles marchaient seules, ou papotant en mégère, la montrant du bout des lèvres. Il est vrai qu'en face, la tante des taxis B allongeait son interminable fil, autant passer son temps à commenter cette apparition. Un brin de Cosette ameublait l'ennui de ceux qui ne pensent plus, accouchant de quelques avis. Mais de qui est née cette traînée ? Quelle honte pour son père et sa mère! Elle n'a donc pas de frère pour la réprimander? Ah, voilà une de celles qui manque de tissu. Fille légère, voilà à quoi en sont venus les jeunes de nos jours. Voici une de ces jeunes sans éducation, on se demande à quoi sont occupés ses parents. Ah, vraiment, je kiffe cette pièce de viande. Hein. On se sert, les gars? Rabour y est passé déjà, je connais cette meuf. Tu n'as aucune chance, mon pote. Elle ne s'intéresse qu'à Omek Friki. Mais la jeune femme ne prêtait aucune attention à tout cela. Elle regarda l'heure sur son poignet gauche, qui ne portait que des bracelets de perles fines. Aurait-elle oublié sa montre? Elle semblait impatiente. Il fut reconnaître qu'elle était d'une grande beauté. Son corps et ses gestes étaient très harmonieux. Elle faisait partie de ces femmes qu'on envie directement. Soit on la déteste sans raison, soit on l'aime sans hésitation. On voit en elle tous les rêves. Ah, si je pouvais être comme elle, si elle pouvait être à moi, etc. Comme une chose, comme un objet de désir. Néanmoins, elle devait être inaccessible, vu la manière dont elle portait fièrement sa tête. Voilà qu'un homme, Vasa, l'approcha. La jeune femme sourit de toutes ses dents. L'homme en fut ravi et la détailla de haut en bas. « Ah, c'est donc une poupée des Vasa. T'as vu, mon pote, c'est l'amante des étrangers. Rien d'étonnant. Celles-là ne viennent qu'avec les riches. Et de plus avec les ratés tiraciphiliens, dit le jeune homme en se marrant. « Eh ben, tu as vu comment elle bouge ?» dit le marchand de beignets à son ami. « On dirait une vendeuse avec son pacte derrière bien ficelé. »« Ne m'en parle pas, » renchérit l'autre. La jeune femme et le Vasa continuèrent de causer, puis leurs visages se transformèrent. Plus tendus, plus énervés. On aurait dit qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur quelque chose. La jeune femme agita ses deux index sous le nez du Vasa rougissant, qui, les mains sur les hanches, la domina de ses explications. Les deux discutèrent fermement sans élever la voix. Mais soudain, la femme gifla l'homme, qui répliqua illico. Oh, il ne faut pas s'étonner qu'il la frappe. Elle ne sait pas vivre. Elle se la pète un peu, trop belle qu'elle se croit, celle-là. Pas une seule n'a pensé à secourir la compatriote, la femme, l'étrangement accoutrée, ne serait-ce qu'à cause des forces inégales entre cet homme et cette femme. Coupez ! Cria une voix féminine à quelques dizaines de mètres en face, dans la foule. Elle était entourée de photographes et de caméramens. C'était très bien, en une seule prise. Vous êtes bon, vous êtes bon. Dès la première fois. La suite, on la fera à Mbuitsu. Les acteurs se regardèrent et se félicitèrent en accolade. Ils étaient redevenus eux-mêmes, dans la vraie vie, comme tout le monde. Le jeune homme posa un lambe sur les épaules de la jeune femme pour la couvrir. Et qu'avait-il bien pu penser les spectateurs ? La nuit commençait à tomber. Deux types d'individus marchaient dans les rues. Ceux des heures supplémentaires et les noctambules. En pleine ville, les rues sont toujours éclairées, même si certaines lampes clignotent de vieillesse. Une rumeur montait de la petite foule, à la suite du tournage de la séquence du film auquel ils avaient assisté en direct, au milieu des voyageurs attardés, bordés des étals de nourriture cuite. Donc ils étaient en train de tourner, hein ? Super la miss ! S'exclama celui qui prétendait être l'ami de Rabour. Allez, faites-nous figurer dans le film ! Dit le vendeur de foie de zébu grillé. Un large sourire dévoilant toutes ses dents. Ici, le foie de zébu grillé au piment, le commerce continue. C'est quoi le titre, hein ? Ça sort quand ? Ah, que tu es belle ! On aurait cru que ce n'étaient pas les mêmes personnes. Ils dévisageaient tous la jeune comédienne avec des yeux admiratifs, celle auparavant affublée de noms d'oiseaux. Mais c'est qui dit ? Elle est donc très célèbre. Elle a un beau look. J'aime beaucoup son sac à main. Il me semble avoir déjà vu. On dit sac à main, pas casse à main. Et moi, c'est les chaussures. Elle a vraiment un joli corps, cette fille, hein ? Ah oui, elle a déjà fait des pubs à la télé, en effet. Ah oui, je me rappelle maintenant. Elle s'appelle Nino. Et elle sort avec ce Vasa ? Que de questions. Où sont les limites ? C'est ainsi que s'altère et se désaltère la vision de la société, jugeant d'un seul coup d'œil les passants. Stéréotypes et préjugés que les niveaux sociaux ne savent éluder. Ils ne peuvent voir au-delà de l'apparence ceux qui sont fatigués par leur lutte primaire. Ils n'ont pas envie de penser au-delà de leur besogne.
Massimo mi diria
Radio Libertaire 89,4 MHz de Soutsène, magazine de créatures radiophoniques.
Merci Nicolas, nous sommes toujours en contact avec 50% du groupe Sora Javona, voilà, avec Han Shun, qui est donc poétesse, chanteuse, compositrice, et sa maman Patricia, qui est alors instrumentiste, chanteuse, compositrice, et qui s'occupe de la logistique de ce groupe malgache magnifique qu'un jour vous reverrez sur Paris, je l'espère beaucoup. Nous sommes en direct sur Radio Libertaire, émission Dessous de scène, Laurent au micro. Tout à l'heure, en fin d'émission, nous aurons Moa et son invité, mais avant, bien sûr, nous aurons Christina Rospini qui écoute, je dirais pas religieusement, pas sur Radio Libertaire, mais qui écoute attentivement et qui découvre et qui a l'air sous charme. Donc, c'est ce que j'espérais en plus, c'est le charme des rencontres. Alors, nous venons d'écouter aussi une chanson de Patricia sur cet album. Alors, raconte-nous un peu l'histoire de cet album. Il est toujours disponible ?
Oui. Donc, ce morceau-là, c'est un poème de Dox. Et Dox, c'est le grand poète malgache qui n'est autre que le papa de Dédé, le chef du groupe Surazavn. Et ce poète-là, il fait un peu l'équivalent de, on va dire, Victor Hugo en France. Donc, à Madagascar, il est très reconnu, et à l'extérieur même, puisque ce poète-là, on l'étudie déjà dans différentes universités internationales, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, même en Corée, partout, en France, on parle de lui, et nous sommes là aussi, surtout pour faire vivre et pour l'éterniser, ce poète-là, puisque c'est vrai que beaucoup ne le connaissent pas trop en exclusivité. On ne connaît que Jean-Joseph Rabier-Rivel, mais il y en a bien d'autres, hein, par exemple celui-là. Donc ce morceau-là, c'est le premier que j'ai composé de ma vie, puisque c'était, je ne vais pas être long, Dédé était déjà en tournée en France, donc moi je devais le rejoindre pour chanter. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais amener pour lui ? Je ne vais quand même pas amener encore des bracelets ou encore des trucs de Madagascar qu'il connaît, mais je vais lui faire une surprise et j'ai composé ce morceau. J'ai ouvert un bouquin de Dox, j'ai lu le poème et tout de suite je me suis dit, mais j'ai envie de composer quelque chose. Et c'est comme ça que ça a été composé. Et puis je suis accompagnée en seconde voix par Han Shun, évidemment. Oui, donc voilà. Moi, je tiens quand même à souligner... parce que toi, Laurent, tu dis tout le temps, c'est la famille, bien sûr qu'on est de la famille, mais surtout moi, je tiens toujours à expliquer que quand on est sur scène, on n'est plus de la famille. Chacun son truc. chacun sa personnalité et chacun son style. Voilà.
C'était bien de le préciser, absolument, absolument, c'était important. Ouais. Oui, oui. Alors là, vraiment très, très, très belle chanson aussi. Alors,
Pardon, Laurent.
Oui, oui, Patricia.
Oui, je voudrais préciser que, puisque c'est vrai qu'il n'y avait pas de traduction, tu peux me traduire un peu hein, ce que j'ai chanté là, très brève.
En live là, du coup, elle me demande.
Oh. Alors là, c'est soudain.
Alors,
le premier couplet, okay, que tu t'en souviennes.
Il est ce ciel merveilleux, mais je préfère le chatoiement de tes yeux, offrant ton âme en m'observant, ton âme à laquelle je nie la mienne.
On a envie d'en savoir plus. On a envie. Voilà. Merci Anshun. Et puis voilà, ça c'est le direct. Moi j'aime bien cette spontanéité du direct. Donc tu peux me redemander quelques petites choses tout à l'heure, Patricia. Pas trop, mais un petit peu, parce que c'est bien. On a prévu un programme, mais c'est bien. Comme là, je viens de faire quelque chose d'un petit peu imprévu, mais je l'ai proposé et préparé pendant la chanson. Mmh. On va écouter le titre numéro 2 de cet album. Ça n'est pas le premier, hein. Ça n'est pas le premier lecteur. Je crois que c'est le disque qui est donc qui s'appelle Tiako. Musique de Madagascar. Alors voilà, c'est indiqué avec une autre orthographe sur ce deux titres. Et avant ou après, donc puisque c'est Patricia qui chante,
oui,
et j'ai demandé à sa fille Anshun, qui est à ses côtés, eh bien, de lire la traduction. Alors, ce sera avant ou après? Comment vous le sentez?
Avant.
Avant. Mmh. Alors, nous allons écouter Anshun, et ensuite, juste après, nous allons écouter le deuxième titre. Anshun, c'est à toi.
Mon cœur en terre. La terre s'est inclinée pour verser un peu de larmes. Son sang s'est déversé. Son cœur s'est laissé choir avec les fruits de ses ivresses. Les rivières ont débordé de leurs lits. Les arbres ont atteint le firmament béant, laissant entrevoir des étoiles baies. La lune a éclaté. Le soleil fondu brûle, emprisonné. Catastrophe! La terre s'est inclinée, son royaume a changé de palais. Mon cœur a décliné, ses couleurs changées en éclats de chagrin. Le mot de la fin est tombé, errant, perdu, loin du « oui ». Ses branches embourgeonnées ont flétri en écho au « non » qu'on lui a rapporté. La lune bien-aimée, noire, en aller n'a pu savoir que tout est terminé. Triste, je porte sur mon cœur ce qui en reste. Douce poussière, mes yeux pleurent.
Suando loca, maio, se tá favor.
nous avons presque chanté ce titre, puisque Nicolas a la main l'est, n'est-ce pas ? Merci Nicolas. Bon, alors c'était un titre, alors je vais demander à Patricia de nous dire le titre que nous venons d'écouter avec l'accent idoine.
Nifukutani. C'est la traduction qu'elle a fait déjà. Nifukutani. Hein?
Oui, c'est ça. Ton cœur en terre.
Alors une... Ah ben j'entends des choses. J'entends des choses dans mon casque là. Donc une actualité pour Anshun qui a un lien avec notre beau pays de France, la France profonde, la Bourgogne. Il va se passer quelque chose en Bourgogne. Et tu peux donc annoncer cette actualité, Anshun. Et puis ensuite, on ira du côté de Ronsard très très brièvement. Alors, la Bourgogne.
Alors, le Centre de francophonie de Bourgogne organise du 24 au 26 novembre, son 8e festival. Donc c'est le thème cette année, ce sont les pays de l'océan Indien, les îles. Et donc il y aura plusieurs auteurs, écrivains et artistes de Madagascar, Haïti, les îles de l'océan Indien, l'île Maurice, donc incluses, qui seront invités à ce festival. Et ils m'ont invité pour la partie poésie, pour représenter Madagascar et... Nous vous invitons à venir découvrir sur le thème de la voix des femmes. Il y a d'autres thèmes qui sont programmés. Vous allez sur, je pense, sur Google. Il y a leur site qui est indiqué. Donc, Centre de francophonie de Bourgogne.
Dans quelle ville ?
Je ne me souviens plus le nom de la ville, mais c'est indiqué sur le site.
Alors, on va répéter encore.
Centre de francophonie de Bourgogne.
Eh bien, voilà. Comme ça, les internautes pourront aller surfer.
Tout à fait.
Un petit coucou à Ronsard.
Oui, un petit coucou à Ronsard, hein, quand vous serez bien vieille. Bon, on n'y est pas encore, mais... qu'on va dire en malagasy, que j'ai traduit donc. Dans le recueil, deux fois une. Riefa wantcha yano, anda inzir takarif, ipecha kiwa murpantana, amisavisa si anen, ilaza iiranda la kalku, iravrav tzitenen, nanka la zaire ansar funyo manza bulaziva. Amzane no, tsiaita panumfa vianje vovo, efalana kniasa, efupis turtsar, katsutecha ramanje nianarani ronsar. Iub tsis fiafarana hitsujano feno anao. Ao ambany rangola efa velo tsis tolana no akahenao ao analoka fisaonana. Ao akany kosa enao antibavy hiararetra. Atsai ny fisiko sy ny avonavonao azendrasana ny ampitso. Miaina inoy aho ho tazo dia ny anio ny rozom-piainana rehetra. Cueillez aujourd'hui les roses de la vie. Ronsard.
Merci Anshun, merci Patricia pour cette belle contribution.
Merci
tout le monde opine du chef ou applaudit en silence comme Christina Rosmini.
Merci.
Et notre ami Moa a été, je le sais, très admiratif. Alors ça fait très plaisir. Bah, c'est l'esprit de cette émission qu'a créé Nicolas il y a fort longtemps. Il y a des belles rencontres. Ici, je me souviens, il y avait les flûtes Peul, il y avait Nazaré Pereira du Brésil qui était là en 2016, voilà, ça a fait beaucoup plaisir à Nicolas. Il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, c'est aussi avec le théâtre, avec toutes les expressions, la poésie, les nouvelles, etc. Ça fait beaucoup de bien. Merci à vous deux, on fera une émission une autre fois.
Merci,
vous reviendrez dans quelques mois, parce qu'il y a une matière très très riche. Et maintenant, ben, vous allez redécouvrir ou découvrir Christina Rosmini. Chanson de tous les Suds, c'est un deux concerts événements, les 21 novembre, c'est très très bientôt, et 21 décembre, ça va se passer au studio de l'Ermitage, c'est un lieu magnifique, c'est un lieu où on se sent très très bien. Et on va écouter un titre choisi par Christina Rosmini, c'est bien le 8, oui j'indique à Nicolas, parce que je crois que je lui ai indiqué le 1, parce que c'est la Louve, bien sûr. Je voudrais qu'on l'entende, j'espère qu'on aura le temps. Mais déjà la 8, j'aurais voulu, qui a été coécrite par quelqu'un dont nous reparlerons tout à l'heure.
J'ai voulu enchanter le monde, ensoleiller le quotidien, faire la terre encore plus ronde et rendre leurs plumes aux Indiens. J'ai voulu nier les tempêtes, les vilainies du genre humain, pour pouvoir en habit de fête faire danser nos lendemains. J'ai voulu croire au beau discours, tissé de fleurs, brodé d'espoir, bardé d'amour. J'aurais voulu sauver la terre, j'aurais voulu semer le beau, j'aurais voulu sabrer la guerre, ouvrir des horizons nouveaux. J'aurais voulu aider ma mère, apprendre le chant des oiseaux, j'aurais voulu juste être un héros. J'ai voulu peindre tout en rose et prier Dieu qu'il croit en nous, en oubliant les échymoses et que le monde est à genoux. Faire la peau à la souffrance et tenter de sécher les pleurs, sans être un aigle aux aliments, essayer d'être à la hauteur. J'ai voulu sur des mots velours tisser des fleurs, broder l'espoir, parler d'amour. J'aurais voulu comme un navire braver le fond des océans. J'aurais vendu plus d'un empire pour le sourire d'un enfant. J'aurais voulu pour mieux bâtir être la pierre et le ciment. J'aurais voulu juste être un géant. J'aurais voulu apprendre le chant des oiseaux. J'aurais voulu juste être un héros. Mais il faut se rendre à l'évidence et vaincre avec patience les pièges du chemin. Mais il faut, malgré l'indifférence, les doutes et la souffrance, se dire qu'on avance et qu'avec un peu de chance, ce sera mieux demain. J'aurais voulu juste être un héros. J'aurais voulu voir l'avenir dans les sillons des océans. J'aurais voulu être un géant.
Elle s'appelle Christina Rosmini. Certains parmi nos auditeurs l'ont forcément vue sur scène sur ce spectacle magnifique dans lequel je l'ai découverte. Ça s'appelle Tio Brassin, c'était à l'Alhambra, au petit Alhambra.
Oui,
un très grand souvenir pour moi. Et un petit coucou d'ailleurs amical à Sophie Louvet.
Bien sûr.
Qui est ton attachée de presse.
Ma chère amie attachée de presse qui
travaille magnifiquement bien, je le dis, à cette antenne. Et qui, voilà, elle sait que je suis le travail de certains des artistes dont elle s'occupe, dont Christina. Et donc, c'était un spectacle extrêmement abouti. C'était vraiment la créativité autour de, justement, des chansons de Brassens. Oui. C'est avec un rapport à ta propre vie.
En fait, voilà, si tu veux, j'ai commencé par El Niño Lorca, en fait, qui était un hommage à Federico García Lorca, que j'avais écrit en tissant sa plume, c'est-à-dire j'avais pris toute son œuvre en espagnol, que j'avais adapté en français, et à partir de ses écrits, bon, l'intégralité de ses écrits, même ses dédicaces, même ses lettres à Salvador Dalí, ses conférences, etc., j'ai écrit une histoire pour raconter sa vie. Et un ami journaliste m'a dit, mais ton lien à Brassens, le lien de ta famille immigrée d'Espagne, d'Italie, qui s'est élevée grâce à Brassens, c'est une histoire qui parle à beaucoup de gens en France. Parce que Brassens a été un facteur d'émancipation des classes populaires, etc. Il m'a dit, tu devrais faire quelque chose autour de ça. Et au départ, ça, je me suis dit, je suis pas une chanteuse de reprise. Et puis, en réalité, je me suis amusée au même exercice. C'est-à-dire, j'ai pris l'intégralité de la parole de Brassens. Et cette fois-ci, non pas pour raconter sa vie, mais la mienne. Comment une famille s'est élevée grâce à lui. Voilà. C'était le pari de Tio Itinéraire d'une enfant de Brassens.
Alors, tu as cet album, donc Inti. Oui. avec donc 14 titres.
Ce sont que des compositions. Pour le coup, c'est que des compositions. Hein. J'ai donc écrit, composé et arrangé, puisque comme Patricia, je suis multitâche, même, je dis, même on fait la tortilla aussi. On fait tout, de A à Z. Merci à Laurent. Du sol au plafond. Allez.
Vous allez peut-être vous retrouver sur une scène.
On est sœurs de cheveux, déjà, toutes les deux.
Voilà.
On a des longs, longs,
Il y a beaucoup de choses. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Absolument.
Il faut la photo.
Et puis on adapte la poésie. Enfin, il y a beaucoup de choses qui nous relie, absolument.
Qui vous relie, voilà. Je savais que ce serait des belles connexions. Alors, donc, le Brassens, c'est une aventure qui peut continuer ou
ça continue, mais
ça
si
ça continue. Voilà, mais là, d'abord, c'est l'album qui vient de sortir. Alors, pourquoi j'ai voulu passer cette chanson? Parce que j'ai vu une co-signature.
Oui.
On va parler de ce monsieur qui était ici il y a encore quelques temps, en face de moi, c'est Claude Lemel.
En fait, c'est quelque chose de très joli. Il y a quelques années, on va dire quelques au pluriel, au grand pluriel, j'étais élève au studio des variétés. Et à l'époque, Claude Lemel, donc, puisque c'est lui, de lui dont il s'agit, était un des intervenants qui venait nous apprendre à écrire, on va dire. Et je l'ai retrouvé il n'y a pas très très longtemps. Et par le biais d'ailleurs de Frédéric Zeitoun, enfin bon, voilà, une très jolie histoire. Et Claude a eu la grande, comment dire, gentillesse et puis générosité de venir passer pour mes beaux yeux 3 jours à Vaison-la-Romaine simplement pour lire mes textes et pour valider mes chansons. Et j'ai trouvé ça tellement généreux. Et dans cette chanson qu'on vient d'entendre, il m'a donné 3 images. 3 images qui sont très belles. Être la pierre et le ciment, c'est lui. Enfin voilà, il m'a donné 3 clés. Et du coup, je lui ai demandé s'il était d'accord de co-signer, parce que pour moi, c'était une manière de lui rendre sa générosité. Et puis, il a été, lui, très touché. Donc voilà, on est... voilà. Donc, comment dire, c'est quelqu'un de grand talent, quelqu'un qui a écrit plus de 3000 chansons à succès. Et à la fois, c'est quelqu'un qui aime transmettre, qui aime enseigner et qui aime comme ça suivre des artistes et éventuellement valider leur œuvre, leur travail.
Alors, quand je pense à Claude Lemel, il y a une expression qui me vient comme ça, là, en direct, le goût des autres.
Oui.
Parce qu'il est très généreux, il pourrait ne pas le faire, mais il aime le faire.
Oui, tout à fait, c'est vraiment...
Et tu as parlé de transmettre, c'est vraiment le goût. Et la grande capacité et la passion de transmettre. Il travaille avec aussi l'homme à la guitare bleue, hein, qu'on connaît aussi, il travaille pas beaucoup.
Ouais,
mais là, qu'il t'ait consacré trois jours
vraiment,
pour te lire, c'est quand même un très bel... C'est un très beau geste, absolument.
Voilà.
Pour ça, je voulais absolument en parler, parce que il y a cet échange.
Oui. J'avais vécu la même grâce avec Étienne Rodagil aussi, qui s'était penché sur mon travail et qui l'avait béni. Donc, pour moi, évidemment, quand on écrit et qu'on a des auteurs de cette envergure, de cette veine, on est...
Alors, on va écouter un dernier titre, il est toujours sur la platine, c'est le numéro 1, c'est mon titre préféré. Enfin non, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais celui-là, tu as bien fait de le mettre en première position, parce que ça accroche, ça attire, ça donne envie d'écouter tout.
Pour l'anecdote, si tu veux, l'album devait s'appeler Louve. Je l'ai composé au départ dans la forêt québécoise. Il était comme ça, empreint de cette puissance, parce que la louve, c'est notre puissance créative à tous. Cette louve qu'on porte en nous, et si on la laisse s'exprimer, elle peut nous amener à danser sur les toits. Et si on la laisse pas s'exprimer, par contre, elle peut nous dévorer. J'en connais qui se sont fait dévorer de ne pas avoir laissé chanter leur louve. Donc, ensuite, quand j'ai écrit tout l'album, tout composé, et que je suis montée sur scène avec, tout le monde m'a dit, mais c'est trop solaire pour que tu l'appelles la louve. On dirait que tu vas nous amener au fond des bois avec une énergie lunaire, alors que là, on est en plein soleil. J'ai dit, c'est vrai. Alors, on va garder la louve comme introduction à l'album, mais effectivement, on va rendre hommage au soleil, et c'est pour ça que je l'ai appelé Inti, qui est le dieu du soleil, pour les Amérindiens, pour les Incas, voilà.
On t'écouterait aussi pendant des heures, mais ça va se faire. Tu reviendras plus longuement, peut-être dans une émission d'un autre jour. Christina Rosmini, chanson de tous les Suds. C'est un très beau titre aussi. Donc, c'est ta société qui s'appelle Couleur d'Orange, création 2023 au Théâtre du Chêne Noir, Avignon. Donc, pour retrouver sur scène Christina Rosmini, c'est très facile à Paris, en tout cas dans un lieu que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amoureux de la musique et de la chanson aiment infiniment, c'est le studio de l'Ermitage. Il se passe toujours quelque chose.
Mardi
21 novembre, mardi prochain, 20h30. Et si vous ne pouvez pas entrer, vous réservez sur votre agenda le 21 décembre. C'est très facile à mémoriser. Studio de l'Ermitage. Ça se trouve à Paris dans le 20e. On le trouve partout. Donc, allez un peu tapoter pour trouver le 8 rue de l'Ermitage, Paris 20e. Et vous pouvez avoir tout en ligne, etc.
Oui,
etc. C'est très facile.
Donc, pour les amoureux de la chanson française, de la chanson et de la musique du monde côté sud.
On écoute La Louve. Merci Christina Rosmini et à très bientôt.
Merci à toi.
Était-elle dans l'enfance, dans tous tes éclats de joie, qui t'entraînait dans ses transes, au jardin de l'insouciance, et qui soufflait dans tes ailes quand tu dansais sur les toits, te faisait toucher le ciel, la louve qui chante en toi.
Christina Rosmini, La Louve, Christina qui sera donc sur scène le 21 mardi prochain et le 21 décembre au studio de l'Ermitage. Place maintenant à deux séquences, plus après Moa et son invité, merci.
Petit voyage au cœur de la planète. Passé, présent, futur, au cœur de la planète. Et sur un pénalty, la Terre est fécondée. Première ovulation, une question se pose. Au-dessus de nos têtes se trouve le passé. Plus nous quittons la Terre, plus nous le remontons afin de découvrir quel en est le début. Grand Dieu, c'est le présent, dont la fraîcheur ne dure l'espace d'un instant, qui fait place au futur. Nilinkamboa, moi, Cosaque plus rouge, aux couleurs de la fête de singes et pantins, je serai la vedette. Je reprends la question, j'y réponds en ancêtre. Si du lit notre union donne une architecture où marche un innocent qui regarde le ciel, reflet de la sagesse, gageons-lui un futur. Il est plus grand que nous à des années-lumière et tellement plus jeune qu'il n'aime que la guerre. Enflammé par nos livres à la reliure dorée, charitable présent des enfants du passé. Nila Wendimas. Moi, Cosaque plus rouge, aux couleurs de la fête de singes et pantins, je serai la vedette. Et reprenons la leçon. Le passé tout autour, le futur en son sein. La guerre des religions explose dans le ciel, y imprime la mort à l'encre des étoiles et des idées froissées. La mort, ça donne faim. Imaginez qu'enfin, je la fasse sourire, en vous faisant rougir. Il ne vous resterait, par implosion du temps, que l'étrange univers de l'amour au présent. Nilagashiembe. Moi, Cosaque plus rouge, aux couleurs de la fête de singes et pantins, je serai la vedette. Vous vous êtes perdu? Le futur n'est pas mort. Le passé donne vie au présent imparfait. Tant qu'il faudra la guerre à chaque nouveau monde, les volcans cracheront le sang dans les récits. Les âmes délétères aux doctrines immondes en rime, sèmeront la haine dans l'esprit. Chérie, je vous attends pour une bague au doigt, vous offrir mon amour, mes plaisirs et ma foi. Moi, Cosaque plus rouge, aux couleurs de la fête de singes et pantins, serais-je ta vedette? Ah, Yadunia, Ikomembomingi, Ingiti chumuvumu nindudatizi, Kogifita kamale, Kaninia bakulembele, Bobala kazi. Merci.
Évidemment, je n'avais pas à préannoncer ce morceau, mais vous avez reconnu, évidemment, Jean-Marie, notre Jean-Marie à nous, d'où il y aurait un petit cadeau tout à l'heure d'Evelyne, mais là, tout de suite, eh ben, ça va être Michel avec une sélection d'un texte d'un auteur qu'il adore finalement et qu'il a, je ne sais pas s'il l'a toujours en poche avec lui, c'est Vialat, c'est ça Michel?
Oui, c'est Alexandre Vialat qui aujourd'hui nous parle de la pluie fine et du mauvais temps. N'est-ce pas? Et voilà. Le temps généralement sinistre de la première quinzaine de novembre se modifie dans la deuxième quinzaine pour faire place à un temps plus noir, plus glacial et plus désolé. L'odeur froide du céleri qu'on remue dans les jardins, pour le replanter plus profond dans le terreau, traîne entre les arbres sous les feuilles. Un poirier qui en a gardé deux ressemble à un mobile de caldeira. Pourchassé par un vent jaunâtre, trois pailles boueuses tournoient dans le chemin vide et trois corbeaux dans un ciel sans espoir. Les astrologues nous prédisent des pluies fines, d'autres des pluies épaisses, d'autres sont pour la neige et le tonnerre n'est pas impossible. C'est ce qu'on appelle à la légère le mauvais temps. Cette notion de mauvais temps purement conventionnelle fausse beaucoup les jugements des hommes. Il faut bien se dire qu'il n'y a jamais que du mauvais temps. Le beau temps a été inventé, comme la République, sous l'Empire, par des gens qui voulaient y croire. Il n'a jamais été si beau que par mauvais temps. L'expérience le révèle toujours nettement inférieur à lui-même. Il se compose d'un soleil rond dans un ciel vide. Il n'y a rien de si stupide ni de si plat que le beau temps. Les bénéfices de la pluie fine sont innombrables, et même de la pluie épaisse. Tous nos malheurs, a dit Pascal, viennent de ne pas vouloir rester dans notre chambre. La pluie fine nous y retient. Nous descendons alors au plus profond de nous-mêmes, par de petites échelles de fer, des escaliers glissants et des couloirs humides. Nous y trouvons à droite nos souvenirs de régiment, et à gauche nos souvenirs scolaires, plus bas encore les pires instincts. Plus bas encore, dans des ténèbres incroyables, dans des oubliettes effrayantes, dans des cloaques qu'on se refuse à nommer, des fantômes si griffus, des monstres si velus, des larves si chauves, que nous remontons à toute vitesse et nous nous replions en désordre. Car l'homme fait toujours peur à l'homme quand il le rencontre en lui-même. Il se jette dans la rue, il entre au cinéma, il y voit Fernandel, qu'il l'assure gentiment dans un sourire de cheval mondain, qu'il s'appelle Barnabé, ou Ignace, ou Jocris, et que c'est un prénom adorable. Il se réconcilie avec l'homme. Tel est le bénéfice des pluies fines. Elle lui enseigne qu'il vaut mieux s'appeler Jocris que de chercher son véritable nom.
Bonjour, 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 Radio Libertaire, 89.4. Donc, vous êtes en direct avec moi et avec mon ami et invité, Bernard Bloch, qui est là. Avant de commencer, c'était juste un petit rappel. Nos chères poétesses qu'on a entendues tout à l'heure, elles étaient les bienvenues au Printemps des Poètes des Afriques et d'ailleurs, il y a quelques temps déjà, voilà, dont j'étais le directeur artistique, Printemps des Poètes des Afriques et d'ailleurs, et nous avons passé des moments très très agréables, absolument magnifiques. Voilà, donc pour l'instant, je présente mon invité Bernard Bloch, qui est là, qui va se présenter lui-même d'ailleurs.
Je vais me présenter en lisant le début du texte que je viens d'écrire et pour lequel je suis là.
Parfait.
Je n'en ai rien à faire de votre paradis pour discoureurs de fond. Tant que vous n'aurez pas appris à vous cracher vous-même à la gueule, inutile de reparaître devant mes yeux. L'espoir que vous n'arrêterez pas de mentir est ce qui me maintient en vie. Faites l'économie du crêpe de deuil, je ne me coucherai pas sur les rails. Pourquoi les lemmings se jettent-ils dans la mer du haut du Spitzberg? Pourquoi les arbres ont-ils l'air innocents lorsqu'il n'y a pas de vent? Qui, donc, j'assassine la nuit? Pourquoi vivez-vous? Pourquoi je ne veux pas connaître la réponse? Et pourquoi je pose la question? On devrait vous bourrer la gueule de morceaux de verre jusqu'à ce que le vent joue sur vos boyaux déchirés. Pour des clopinettes, je vous ai tendu un miroir. Vous l'avez fracassé sur mon crâne parce que votre nez ne vous plaisait pas. À présent, il ne reste plus personne pour vous montrer votre visage. Lorsque le fumier croît, le coq est plus proche du ciel. Les fumiers croissent, les coqs se pavanent et donnent des coups de bec en direction des nuages. Vous connaissez Heinrich Müller? Oui, non? Un peu, beaucoup? Pas du tout? Il n'y a pas si longtemps, on le jouait dans le monde entier et régulièrement on parlait de lui pour le prix Nobel. Mais aujourd'hui, qui encore? Même en Allemagne? C'est dur, Müller, froid, tranchant, obscur, compact, ambigu et désespéré pour quiconque ne s'attache qu'au seul sens de ce qu'il écrit. Eh bien, moi, il me stimule, Müller, me mobilise. Il m'aide à ne désespérer que juste ce qu'il faut pour ne pas se laisser abattre. Sa langue est une boule d'énergie contagieuse, l'énergie de la rage et de l'échec. Et il ne peut qu'affoler la langue des centaures, celle des bureaucrates et des financiers. Je suis l'ange du désespoir. De mes mains, je distribue l'ivresse, la stupeur, l'oubli, jouissance et tourment des corps. Mon discours est le silence, mon chant le cri. À l'ombre de mes ailes habite la terreur. Mon espoir est le dernier souffle. Mon espoir est la première bataille. Je suis le couteau avec lequel le mort fracture son cercueil. Je suis celui qui sera. Mon envol est le soulèvement. Mon ciel, l'abîme de demain.
Merci. Merci Bernard. Alors donc, pour revenir à notre spectacle, les pères ont toujours raison. D'où vient cette histoire du père qui a toujours raison?
Oui, d'habitude, on pense plutôt qu'ils ont toujours tort. Mais parfois, ils ont raison. C'est un texte que j'ai écrit sur mes rencontres avec Heiner Müller, qui est un grand poète de la deuxième moitié du XXe siècle, un poète allemand de l'Est. Le plus grand avec Brecht, à mon sens, et qui est aujourd'hui complètement oublié, comme souvent ça arrive. Il est mort en 1995. Et je l'ai rencontré à quatre reprises à Berlin entre 1982 et 1995. Et je raconte ces quatre rencontres extraordinaires pour moi, où ça a été un peu comme une sorte de père de substitution, de père symbolique, par rapport à mon père réel, qui est très présent aussi dans ce texte. Ils étaient allemands tous les deux, mon père juif allemand, et lui allemand de l'Est, né en 1929, donc élevé dans le nazisme. Son autobiographie s'appelle « Vie sous deux dictatures ». Et il est resté pendant toute sa vie en République démocratique allemande, alors qu'il s'était un dissident, que ses pièces n'étaient plus montées, mais il avait besoin de vivre là, parce que c'était ça la source de son écriture, de sa poésie, de son théâtre. C'est essentiellement de la poésie et du théâtre qu'il a écrite. C'était ce qu'on appelait en Allemagne de l'Est un Aussteiger, c'est-à-dire un qui descend du train. Un qui reste dans le pays, son corps reste là, mais son esprit est en exil. Et son esprit cherche la langue de l'exil, la langue de l'exil intérieur, c'est-à-dire la langue de Beckett, celle du silence, ou la langue d'Artaud, celle du corps qui pue, qui sue, qui souffre. Donc voilà, j'ai voulu réinitier, c'est comme une sorte de conférence théâtre, une initiation à ce grand poète oublié, injustement oublié, d'autant plus que, d'un point de vue strictement politique, quand on lit ses œuvres, ce type a eu la prémonition de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire, le mur dans lequel nous allons, il l'a vu venir, lui. Et pourquoi ça s'appelle « Les pères ont toujours raison » C'est parce qu'il se trouve qu'avec mon père à moi, qui avait plus de 80 ans au moment de la chute du mur, en 1989, on a regardé ensemble des images de la chute du mur, Rostropovitch, la fin de l'histoire, disait-on à l'époque, tout va aller bien maintenant, tout le monde est d'accord. Et j'entends mon père dire dans sa barbe, dire quelque chose que je ne comprends pas, je lui demande de répéter, il dit pour lui-même, maintenant ils vont revenir.
Il le dit en allemand ou en français?
En français. Et je lui dis, mais qui va revenir, papa? Et il soulève les épaules. Et quand j'ai vu Heiner Müller le 31 décembre 89, donc quelques semaines après la chute du mur, il m'a demandé ce qu'on pensait, ce qu'on disait en France sur la situation, sur cette chute du mur. Et je lui ai raconté cette histoire de mon père. Et c'est là qu'il m'a dit, « Die Väter haben immer recht ». Les pères ont toujours raison. Voilà la raison pour laquelle j'appelais ce texte.
Mais alors, par rapport aux mères, alors, les mères.
Alors, les mères.
Qu'est-ce qu'on en fait ? On les oublie ?
Non, elles sont très présentes, d'autant plus. Je dis à un moment, pourquoi est-ce qu'on est toujours à la recherche de son père ? Parce que sans doute, il s'enfuit beaucoup plus souvent. Et les mères s'enfuient moins. Elles sont là. Elles restent là. Ou alors, elles disparaissent. Brutalement. Et donc, et pourtant, les pères, quand ils sont là, ils sont souvent trop là, ou alors pas assez. Et donc, on les cherche. Ils sont rarement là où il faut. C'est pas, c'est sans doute pas facile d'être un père. Je le sais parce que je suis père, maintenant d'ailleurs aussi grand-père. Et donc, la question de la paternité, Müller disait la paternité n'est pas un lien naturel. Donc c'est un lien culturel. C'est quelque chose qui se construit. Comme disait l'autre, on ne naît pas femme, on le devient. On ne naît pas père, on le devient. C'est sans doute vrai aussi pour les mères, d'ailleurs, finalement.
Et donc, tu as décidé un beau jour d'écrire une pièce de théâtre sur « Les pères ont toujours raison ».
Voilà, sur mes deux pères, le vrai et le faux. Et de raconter à la fois l'histoire, une histoire très politique, celle de Heiner Müller, très poétique et politique, et puis une histoire très intime, celle de la relation avec mon père, qui est mort depuis longtemps maintenant, et qui était un juif allemand qui a quitté l'Allemagne en 1934 grâce à une jeune femme qui lui a fait comprendre qu'elle pouvait pas rester avec lui parce qu'elle avait couché avec lui, mais qu'elle risquait d'être mise en prison pour souillure raciale. Et finalement, cette jeune femme lui a sauvé la vie et du même coup la mienne. Donc voilà, je raconte un peu toutes ces histoires-là.
D'accord.
Et la particularité de ce spectacle, c'est que je vais le monter dans deux versions, une version française et une version allemande, au Luxembourg, parce que là-bas, ils sont tous bilingues.
Moi, je
suis germanophone, mais ce n'est pas moi qui vais jouer la version allemande, d'accord. C'est un acteur luxembourgeois. Et aussi pour faire entendre le texte de Heiner Müller dans sa langue, puisque c'est sa langue. Alors voilà, je récupère une partie des impôts qui ne sont pas payés en France, puisque le spectacle est en grande partie produit par le Luxembourg.
D'accord. Et donc le Luxembourg participe un peu au financement de...
Ah oui, plus qu'un peu, ils mettent la moitié du financement. Oui.
D'accord.
Et on le crée là-bas, au Théâtre National du Luxembourg. J'ai d'ailleurs, récemment, c'est il y a 2 ans que j'ai mis pour la première fois les pieds au Luxembourg, j'ai joué dans une pièce en allemand, pour le coup, une pièce sur Eichmann, où je jouais le juge Alevi, qui était le juge du procès Eichmann à Jérusalem. Et c'est la première fois que je jouais un grand rôle en allemand. Et j'ai découvert le Luxembourg, qui est beaucoup plus intéressant que l'image qu'on peut en avoir... de loin. Il n'y a pas que des financiers et des banques et des assurances, il y a aussi des gens, et des gens du monde entier. Et il y a cette particularité au Luxembourg, c'est que tous les enfants, même s'ils arrivent déjà âgés, à 14 ans par exemple, ils apprennent le luxembourgeois. Et le luxembourgeois, c'est un dialecte que parle 1 million de personnes en tout. Mais du coup, c'est un endroit extraordinairement cosmopolite, où tout le monde parle ce dialecte germano-néerlandais, et du coup, il y a une intégration qui se fait culturellement beaucoup plus qu'ici. Parce qu'il y a ce dialecte commun. C'est assez intéressant, cette politique qu'ils ont là-bas par rapport à l'éducation des enfants.
D'accord. Et alors, comment te situes-tu par rapport à cette catastrophe que nous vivons actuellement.
Alors, on a 2-3 jours devant nous, là.
Non, en bref, en 2 mots.
En bref, quand même, pour que les auditeurs le sachent.
D'accord, pas d'accord.
Là, ça fait à peu près 10 ans que je travaille sur Israël-Palestine, que j'ai écrit déjà 3 livres, 2 spectacles, et que je viens de terminer un spectacle au mois d'avril dernier qui s'appelle Jérusalem, portrait sensible, qui s'appelle La Situation, et qui est un spectacle de théâtre documentaire où j'ai réécrit des entretiens que j'ai eus avec des habitants de Jérusalem en 2016 et dont j'ai fait un spectacle. Donc j'ai la tête dedans, c'est mon autre tropisme, j'en ai 2, c'est Israël-Palestine et l'Allemagne. Et donc, évidemment, ce qui se passe là, en ce moment, depuis le 7 octobre, c'est ce que je crains depuis 10 ans. Je le voyais venir, j'espérais me tromper. Parfois, les pessimistes ont raison.
Oui.
C'est à la fois terrible et c'était prévisible, mais pas sous cette forme, bien sûr. Et là, on est dans le pire du pire. Alors parfois,
c'est ce que je me dis. Comme dit l'autre, être juste suffisamment désespéré pour ne pas se laisser abattre. Parfois, le pire, c'est comme le fond du trou. C'est à partir du fond du trou qu'on peut rebondir. Et c'est à ce à quoi je m'attache, je me consacre.
Très bien. Alors, il nous reste deux minutes, je crois. Je vais en profiter pour justement transmettre un petit texte sur la Palestine, qui s'appelle L'Exil. Frère, tu as voulu savoir d'où je viens, moi le grand exilé de ce siècle, moi qui parcours le monde entier, l'amour de la patrie au fond de mes bagages, j'hésite, tu sais, mon âme est mitraillée, mon cœur blessé, je suis né en déportation, je suis né au petit matin, sous une tente faite en peau de chèvre, au fin fond d'une brousse hospitalière, ma patrie s'appelle la Palestine. Je retournerai avec la pierre des totems pour reconstruire mon village, rasé par le sionisme. Jour de soleil immaculé, et je continue toujours le poème, au rythme de ton combat légitime pour la réalisation de ton vieux rêve sous l'arc de triomphe de tous les continents. Glorieuse Palestine, qui chante dans mon être, en ce temps suprême du feu, sinon la glorieuse Palestine, le chant dont mon âme s'étire jusqu'au couchant du délire. La Palestine debout, dans les flammes, tenace dans le combat, colle à mes horizons l'espoir d'une mère patrie dans la marche d'un volcan, aux larves primordiales. Le sang sur un unique chemin me dévoile des choses, ombres perdues sur l'écran des temps, ici-bas, le sang amer. Amer bu. Voilà, c'était un éloge à la Palestine.
Alors, je voudrais juste ajouter une petite chose.
Oui.
Qu'est-ce qu'on fait quand on est comme moi, quelqu'un qui a une empathie aussi forte pour les Palestiniens et pour les Israéliens?
Bravo. Bravo, Bernard. Oui. Bravo, Bernard. Absolument. Moi, je suis Christina Rosmini. Je ne suis ni juive, ni arabe, ni israélienne, ni palestinienne.
Citoyenne du monde.
J'ai passé 3 semaines à Gaza il y a quelques années. Mmh. J'ai tellement d'amis en Israël et mon cœur saigne pour les deux peuples. Mmh. Merci, Bernard.
Bravo encore une fois.
Ainsi se conclut pour aujourd'hui Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, en 1h30, une densité d'émissions comme d'habitude, et dans un instant sur l'antenne de Radio Libertaire, c'est Bulle Noire.
T'as bien capté, Bulle Noire. Sur Libertaire, Radio Libertaire, on va parler polar. Sur Libertaire, Radio Libertaire,
de 17h à 19h,
baby,
ton ami Bob reçoit le gratin des auteurs. Sur Libertaire.
T'as bien capté, Bulle Noire, sur Libertaire, Radio Libertaire, on va parler de polar, sur Libertaire, Radio Libertaire.
Attention, c'est pas l'heure de 4h,
baby,
faut pas te tromper, les flingues vont sortir des holsters.
Bien capté, Bulle Noire, sur Libertaire,
Radio Libertaire,
on va parler de polar, sur Libertaire, Radio Libertaire.
On parle de 38, de calibre 44,
baby,
mais bien sûr tu es sur 89.4.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire. Radio Libertaire sur 89.4.
Bill Noir, c'est tout de suite avec en deux parties. Une première partie avec Karine Pitocci qui vient de publier aux éditions Lafond dans la collection La Bête Noire, Retour à Saint-Marie Hill. C'est un cozy Christmas mystery. Elle nous dira le pourquoi du comment dans quelques secondes. Et puis en seconde partie, nous parlerons de Domenica, la fameuse Domenica, celle qu'on appelait la diabolique de l'art. C'est un roman de Patrick Reynal et Emmanuel Alarenal qui vient d'être publié chez Alma Michel. Mais ce sera en seconde partie. Là, pour l'instant, nous sommes avec Karine Pitocci qui nous appelle de loin. Salut Karine.
Bonsoir.
Bon, quand je dis que tu nous appelles de loin, c'est du côté de Nice que tu habites.
C'est ça, j'habite à Cagnes-sur-Mer exactement, à côté de l'hippodrome. On a un hippodrome dans notre ville.
D'accord. Alors, on a peu d'informations, on trouve peu d'informations sur toi et te concernant sur le net. Par exemple, on ne sait pas du tout à quel endroit tu es né, on ne sait pas totalement l'âge que tu as, mais je me garderai bien de te le demander.
Alors, je suis née à Nice. Donc je suis une vraie niçoise et j'ai 47 ans.